5 ans après MeToo, le sexisme ne recule pas en France.
Non, c'est même le contraire. Résultat alarmant du rapport annuel du Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes, le sexisme et les violences qui en découlent ont augmenté.
Vous venez dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Je souhaite que soit bien inscrite. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
33% des femmes ont déjà eu un rapport sexuel alors qu'elles n'en avaient pas envie, mais suite à l'insistance de leur partenaire. Conscientes d'ailleurs que le monde est ainsi fait, les femmes ont intégré le sexisme dans leur quotidien. Alors elles s'adaptent et elles renoncent à faire des activités seules, plus d'une femme sur deux, à s'habiller comme elles le souhaitent, aussi plus d'une femme sur deux, à ne pas parler trop fort.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission de Stop VSS sur Graphite. Nous sommes une association étudiante de l'UTC et nous luttons contre les violences sexistes et sexuelles, à l'université notamment. Vous avez peut-être entendu parler de nous récemment sur Graphite avec la diffusion de nos podcasts sur les VSS pendant les stages à l'UTC. Diffusés tous les mardis à...
18h.
Merci. Nous menons des actions de communication, de prévention et de sensibilisation via des formations pour les étudiants, des ateliers et aussi des posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. L'Instagram, c'est...
qui est stopvss-utc.
Merci beaucoup. Dans cette émission, nous voulons utiliser la plateforme que nous accorde Graphite pour discuter, débattre et développer divers sujets autour des violences sexistes et sexuelles. Du féminisme plus généralement, inspiré des thèmes que nous abordons sur notre page Insta. Donc je me présente, je m'appelle Laurane et j'ai 23 ans, je suis étudiante à l'UTC depuis 2019, c'est ma dernière année, et je suis animatrice et organisatrice de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et de sexisme dans le sport, et pour cela, je suis accompagnée de...
Juliette.
Et Alice, et nous sommes étudiantes à l'UTC. Membre de l'association Stop VSS, plus particulièrement RESP Communication, toutes les deux. Et nous sommes aussi capitaine de l'équipe de foot universitaire depuis un an et demi déjà. Mm-hmm.
Des personnes bien rodées sur le thème du sport et des femmes.
Oui.
Nous allons commencer cette émission avec un petite rubrique historique déjà. Donc, je vous laisse avec ces petites sonorités du passé.
Absolument grotesque, j'ai déjà du mal à suivre le vrai foot, alors avec les femmes, vraiment, c'est pas ça qui m'arrangera avec elles.
Et à côté des géants de la route, voici les mignonnes du bitume.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Voir une femme sur un vélo...
Et c'est avec ces belles paroles de Marc Madiot que nous nous mettons bien dans le bain de la mentalité passée sur le sport féminin. Alors, petit disclaimer pour commencer cette partie historique. Je vais surtout aborder l'histoire des femmes dans le sport centrée sur la France, principalement, parce que sinon ce serait un peu long. Donc rapidement, pour en passer un peu dans l'Antiquité et le Moyen-Âge un peu général, il n'y avait pas de concours athlétique dans l'Antiquité pour les femmes, même s'il y avait des concours comme les JO. À part une manifestation sportive qui s'appelait les Jeux aériens, une course de 160 mètres, et c'était 2 semaines après les JO. C'est les seuls détails que j'ai réussi à trouver dessus. Et après, au Moyen-Âge, pareil, pas énormément de détails. Il y a quelques récits de femmes chevalières. L'équitation était pratiquée par les femmes de la noblesse, ainsi que le jeu de paume, donc l'ancêtre du tennis. Et il y a quelques joueuses célèbres du XVe siècle, notamment Anne de France, qui était reine régente.
Okay.
Donc, wow. Stylé. Et Margot la Hennuyère, qui est un peu la première sportive connue, qui a son nom dans l'histoire et tout.
Ok.
Après, au XVIIe siècle, on a eu des développements d'activités sportives spécifiquement féminines qui se popularisaient de plus en plus, mais pas vraiment de femmes dans les domaines sportifs masculins, entre guillemets. Après, quand on fait un petit saut dans le futur au XIXe siècle, grand moment pour les sports en général, puisque c'est les naissances des premières unions, des premières fédérations sportives, notamment l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA, Je préviens, il y a énormément d'acronymes dans cette partie historique. Je vais décorcher pas mal de lettres, je suis désolée. Et donc, cette union exclut les femmes. Il y a aussi la création des JO de l'ère moderne en 1896. Grand débat actuel, hein, les JO. Donc, c'est créé pour les hommes uniquement, de base. Et il y a un grand opposant à la présence sportive aux JO, qui reviendra beaucoup dans cette partie, qui s'appelle Pierre Coubertin. Coubertin, oui, c'est ça. Je m'en veux pas d'écorger son nom parce qu'il a dit des trucs pas très sympas. C'est un peu le Darth Vader de l'inclusion féminine dans le sport. Vous allez voir, le petit Pierre, il est sympathique. Notamment, quelque chose qui m'a fait un peu rire quand j'ai fait mes recherches. Un des premiers sites qu'on trouve quand on cherche historique des femmes dans le sport, tout ça, France, c'est un site médecine de sport qui a un article sur les femmes dans les JO. Assez intéressant. Et il y a une phrase qui m'a fait tilt un peu, puisqu'ils ont dit que Pierre Coubertin était très opposé à la présence des femmes dans le sport, mais qui n'était pourtant pas spécialement misogyne. Et après, ensuite, quelques citations de Pierre Coubertin pour que vous puissiez vous faire une idée à quel point il n'était pas très misogyne. Il a dit « Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. »
J'adore.
Et pour lui, les JO constituent, ouvrons les guillemets, l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense.
Wow. Merci Pierre.
Ah là là, il nous en fait des belles pierres. Mais malgré ses efforts, il y a des femmes aux JO dans certaines catégories, donc tennis, golf, voile et croquet environ, à partir de 1900, donc au deuxième JO. Sorry Pierre, tu as bien essayé. Et en 1910, on a les créations des premières associations sportives, notamment Femina Sport et d'autres associations. Et il y a la première union française féminine, qui est l'Union française des sociétés de gymnastique féminine, l'UFSGF, qui a une présidence masculine. Pour contrebalancer, il y a les différentes associations sportives qui ont été créées en 1910 qui se sont mises ensemble pour faire la Fédération des sociétés féminines sportives de France, FSFSF, qui est un peu l'acronyme le plus stylé de Elst.
C'est vrai.
Et qui, elle, organise à ce moment-là, du coup, dans les années 1910 jusqu'à 1920, pas mal d'épreuves d'athlétisme, ce qui est assez inhabituel à l'époque pour les femmes. Ensuite arrive la période entre-deux-guerres, qui est là où il y a eu un gros boom et resurgence du sport féminin. Il y a de plus en plus de sportifs qui se font se connaître, des nouvelles fédérations qui sont créées. Il y a notamment un engouement pour le foot féminin dans les années 1920, donc j'ai pensé à vous. Et à ce moment-là, en 1922, il y a le premier JO féminin. Il y a eu des Jeux Olympiques féminins.
Ah ouais, entièrement féminin.
Ouais, entièrement féminin. Okay. En effet, parce qu'après avoir essuyé deux refus de Coubertin, notre Pierre adoré, d'ouvrir les Jeux Olympiques aux femmes, Alice Coubertin, qui à l'époque... qu'est-ce que je raconte, désolée, Alice Mia, qui est à l'époque la présidente de la Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI, décide de rassembler les femmes à Paris pour une compétition olympique. Et en gros, son combat, c'était d'arriver à faire des épreuves d'athlétisme de femmes qui soient populaires et du coup qui incitent la communauté des Jeux Olympiques à intégrer des épreuves d'athlétisme aux JO. Et évidemment, Pierre n'était pas content avec ça. Il a même dit qu'il était contre des Jeux Olympiques femelles ou un truc comme ça, il me semble.
Oh là là.
Terminé, donc. Bref, ça fait toujours plaisir. Et oui, et elle a réussi son combat puisqu'il y a eu quelques milliers de spectateurs qui sont venus dans les stades pour voir et ça a bien marché. Du coup. La comité des JO s'est dit let's go, épreuve olympique, épreuve athlétique pour les prochains JO. Donc tant mieux. Mais par contre, les Jeux olympiques féminins ont perdu le droit de s'appeler olympiques très rapidement, puisque les comités a piquer une colère et a déposé le mot olympique pour en être propriétaire. Ah ouais. Et du coup, ça a continué quand même. Il y a eu 3 ou 4 versions de ces jeux, mais qui s'appelaient Jeux mondiaux, du coup. Mmh. À différents endroits, il y en avait un à Göteborg, un à Prague et un à Londres. Ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est sous le gouvernement Vichy, donc vision très traditionnaliste de la femme, de la famille. Mmh. Et il impose la fusion des organisations féminines avec les fédérations masculines homologues. Ce qui paraît un peu en soi mixité,
pourquoi pas,
mais... Pour vous dire un peu le style, Vichy a quand même interdit le foot féminin pendant son règne. Donc c'était pas vraiment dans une optique, c'était plus dans une optique de les...
Invisibilisation.
Ouais, de les invisibiliser et de les empêcher de pratiquer, puisqu'ils se sont dit, bah, une fois qu'ils seront avec les hommes ils vont pas les laisser faire du sport, quoi.
Il me semble que c'est seulement dans les années 80 que la loi contre le foot féminin a été retirée.
Ah ouais, j'avais pas vu ça.
Ouais.
C'est super récent.
Elle est restée longtemps.
Oui, c'est vrai qu'après, j'avais vu un reportage INA qui parlait de foot féminin dans les années 80 et quelques, et il disait que ça faisait moins de 10 ans que le foot féminin existait en France. Et comme j'avais vu que ça existait quand même dans les années 1920, j'étais genre...
Après, il y a une époque où il y avait encore la loi qui avait été mise sous Vichy, mais les joueuses pouvaient jouer quand même. Il y a eu un temps comme ça, je ne sais pas, 10 ans peut-être.
Intéressant. Aussi, après c'est la guerre, du coup, même avec les fusions de fédérations, dans certains sports, comme l'athlétisme et le ski, les compétitions féminines et masculines ont redémarré en même temps et il n'y avait vraiment pas trop de soucis d'intégration. Mais par contre, dans d'autres disciplines, le foot notamment, et la lutte, le droit d'exercice des femmes est retrouvé qu'après des initiatives individuelles et des pressions sur les fédérations. Donc après, d'année en année, après les années 1950, y a des sportifs qui se sont démarqués dans plein de secteurs différents et les femmes sont de plus en plus représentées dans le milieu du sport. Mais quand, fun fact, les JO 2024, donc ceux de cette année, sont les premiers à être totalement, enfin, ont la parité parfaite. 50% de sportifs, 50% de sportives. Et quand on pense que c'est que maintenant que c'est le cas, alors que moi, personnellement, je pensais vraiment que c'était le cas depuis pas mal d'éditions de...
J'avais posé la question, en fait.
Ouais.
Ça me paraissait logique.
Ça me paraissait normal, oui, mais apparemment, non. Faut se remettre en question en général, je pense. On voit que le chemin a été très long et qu'il n'est pas encore fini. Sinon, on n'aurait pas grand-chose à raconter pour le reste de cette émission. Du coup, c'est sur ça qu'on va essayer de faire un petit break musical, là, parce que vous m'avez quand même entendu parler pendant très très longtemps. On va finir avec la chanson MJ Perec de Joëlle Ursule. C'est une chanteuse guadeloupéenne qui rend hommage à la star de l'athlétisme des années 90, Marie-Josée Perec. C'est une des plus grandes sportives olympiennes françaises. Et aujourd'hui, elle rend aussi hommage à toutes les femmes qui se sont battues pour donner le droit aux femmes de courir aux JO et dans d'autres compétitions. Donc, écoutons tout cela ensemble.
Okay, let's do it.
Let the bass kick.
Non, maximum respect pour tous les athlètes. Et une spéciale dédicace pour Marie-Jo qui arrête pas de gagner. Right now, MC Jean est comme Pichard vidé. La mage à fleur de peau, tu te bats pour gagner. La piste est un éclair où ta vie est tracée. So, faut pas t'arrêter. Marie-Josée, un jour c'est sûr, tu vas t'envoler. Faut pas t'arrêter. Marie-Josée, dans les stats, c'est toi ma préférée. Faut pas t'arrêter. Allez, Joël, je te passe le relais.
Avant, voici vous-même qui l'a. Les mains vont passer.
tu vas t'envoler.
Écoutez Graphite 94.9. C'était MJ Pérec de Joël Ursule. Et vous écoutez surtout l'émission Stop BSS sur le sport et, le, et les femmes. MJ Pérec, du coup, une grande athlète olympienne, mais il y a plein d'autres figures emblématiques du sport féminin. On va essayer de vous en présenter trois aujourd'hui. Je vais commencer avec Alice Mia, donc un peu historique. J'en ai parlé très rapidement lors de la rubrique historique, si certains des auditeurs l'ont entendu. Elle était donc l'organisatrice des Jeux Olympiques féminins, mais elle a fait plein d'autres choses. De base, c'est une nageuse, une hockeyeuse et une rameuse française, donc ouais. Pluridisciplinaire. Elle est née le 5 mai. En 1884, à Nantes. Ses parents sont Édouard et Joséphine Millon et ils tiennent une épicerie du centre-ville. D'ailleurs, elle s'appelait, son nom de jeune fille, c'est Millon, et ensuite elle s'est mariée et elle s'appelle Mia. Donc, pas énormément de changements. Good for her. Elle se marie d'ailleurs en 1904, mais son mari, tristement, meurt 4 ans plus tard. Et donc, elle est veuve la plupart de sa vie. Ce qui peut un peu un peu son indépendance aussi. Elle commence l'aviron ensuite au Femina Sport, donc un des premiers clubs français et féminin du début 20e siècle. Et ensuite, elle prend la présidence de Femina Sport, donc en 1914. Et en 1917, on a la création, donc le regroupement des différentes associations féminines de sport dans la FSFSF, qui est l'Union sportive française féminine. Et elle préside cette union en 1919. Et donc après, plus tard, en 1922, elle crée une fédération internationale pour les femmes. Et c'est avec ça qu'elle crée les JO féminins. Après s'être essuyé de refus de la part de la communauté qu'il y ait de l'athlétisme au JO. Et donc, c'est son combat comme j'ai pu le dire précédemment, pour les JO féminins, d'intégrer l'athlétisme au JO. Et elle a réussi. Donc, en 1922, il y a 102 ans, premier JO féminin. Et elle finit pas son militantisme avec ça. Elle organise plein d'autres... Coupe et championnat, comme elle est origine en 1930 des championnats du monde féminin, et etc., etc. Mais malheureusement, elle doit arrêter le sport parce qu'elle est malade. Enfin, elle est malade et elle ne va pas très bien en 1935. Et elle se lance, enfin, comme elle est bilingue et qu'elle est très présente dans la scène nationale, elle se lance dans la traduction et elle a ce genre de formation un peu secrétaire et tout. Et donc ensuite. Tristement, elle meurt veuve et sans enfant en 1957. Et elle est inhumée au cimetière Saint-Jacques, dans le quartier sud de Nantes, dans la concession de la famille de sa mère. Mmh. Et quelque chose de très triste, c'est que son nom a longtemps été absent de sa sépulture, jusqu'à 2020, où ses descendants décident d'y apposer une plaque. Donc c'est assez triste, sachant tout le combat qu'elle a fait pour le sport féminin en France, mais même pas juste à l'international en général. Est-ce que il y a peut-être des histoires un peu plus joyeuses ?
Alors, de mon côté, j'avais envie de parler de Marinette Pichon, C'est une footballeuse internationale française. Mm-hmm. Donc, c'est la première footballeuse française à évoluer aux États-Unis, qui est, pour celles et ceux qui ne savent pas, une nation clé en matière de football féminin. Du coup, Marinette Pichon est considérée comme la première star du football féminin français. Donc, elle est née en 1975 dans l'Aube et elle commence le football à l'âge de 5 ans. Et malgré une enfance difficile, avec un père violent et alcoolique, elle continue le foot dans son club d'enfance jusqu'à ses 15 ans. Et donc à cet âge-là, elle doit partir jouer avec une équipe féminine, mais elle refuse, elle a envie de rester dans son club de cœur. Et elle demande une dérogation spéciale, elle l'obtient et elle peut continuer à jouer dans son équipe mixte. Mais bon, son équipe mixte est composée essentiellement de garçons et d'elle. C'est à 16 ans du coup qu'elle rejoint une équipe féminine, l'équipe de Saint-Mémy Olympique. Elle joue donc avec une équipe féminine. À 19 ans, elle fait sa première sélection en équipe de France, ce qui est quand même assez jeune pour faire une première sélection en équipe de France. Mais à cet âge-là, elle n'est pas encore joueuse professionnelle. Donc elle est obligée de travailler en plus de son club, de la sélection nationale et de toute sa vie privée. Donc c'est pas facile pour elle, j'imagine. C'était pas facile pour elle. En 2002, elle est recrutée pour jouer aux États-Unis et elle devient joueuse professionnelle. Donc c'est la première Française à devenir joueuse professionnelle dans le monde du foot. Cette année-là, elle est nommée révélation de l'année aux États-Unis. Elle fait sa petite vie de star française aux États-Unis. Et après plusieurs allers-retours en club entre la France et les États-Unis, elle finit sa carrière au Paris FC en 2007. Dans toute sa carrière, elle compte 112 sélections en équipe de France avec 81 buts. Parce que j'ai oublié de préciser, elle était attaquante. donc ses buts font d'elle la meilleure buteuse de l'équipe des Bleus jusqu'en 2020. En comparaison, le meilleur buteur de l'équipe masculine, c'est Olivier Giroud, avec combien de buts, vous pensez ?
Moi, je dirais 77, genre.
Ok.
Moi, je sais pas du tout.
J'ai aucune idée. Hein.
Ok. Je
sais pas, 80 ?
Non, 80 ?
80 ?
Non, 57.
Ah !
C'est très en dessous de d'elle.
Et voilà.
Donc Marinette Pichon, bien meilleure qu'Olivier Giroud.
Ok.
Donc depuis la fin de sa carrière, elle se reconvertit dans le monde du sport en tant que consultante à la télévision notamment. Et puisqu'elle adore être la première femme à faire quelque chose, en 2012, c'est pas exactement la première femme, mais c'est la deuxième femme en France à obtenir un congé paternité après que sa compagne, Ingrid Moati, qui est joueuse de basket fauteuil, ait donné naissance à leur fils. Elle a d'ailleurs écrit une autobiographie, je crois à peu près à la même époque. Et en 2023, la réalisatrice française Virginie Verrier s'inspire de son autobiographie pour faire le film Marinette. C'est le premier film biographique sur une sportive française. Il a fallu attendre 2023 pour avoir ce genre de film.
J'avais vu les bandes annonces, mais je ne l'ai pas vu. Mais il avait l'air vachement sympa.
Ouais, je l'ai vu. Voilà.
Et du coup, Alice, nous présentes qui ?
Et pour ma part, j'aimerais vous parler de Serena Williams. Donc Serena Williams, vous savez qui c'est. C'est une femme noire américaine, connue dans le monde entier comme une légende vivante du tennis. Donc Serena Williams est née le 26 septembre 1981 dans le Michigan et elle est la plus jeune d'une fratrie de 5 sœurs. Serena Williams commence le tennis à l'âge de 3 ans, sous les enseignements de ses parents, Richard Williams et Horace Price. Et le tennis devient alors sa passion. Et aux côtés de sa sœur aînée Venus Williams, elle forme un duo emblématique, se poussant mutuellement vers l'excellence. Dès 9 ans, Serena intègre un centre de formation prestigieux pour les jeunes talents du tennis et se classe numéro 1 des joueuses de moins de 10 ans en Floride. Ses parents ont toujours veillé à ce qu'elle puisse avoir une enfance entre guillemets « normale » malgré son talent évident. Et c'est pour ça qu'ils vont la retirer du centre de formation alors qu'elle a 14 ans, principalement pour la protéger de remarques racistes que certains parents blancs lui adressent. Et donc Serena reprend les entraînements à domicile. Elle développe alors son style de jeu, tout en puissance et en agressivité, et gagne son premier grand chelem, l'US Open de 1999, à l'âge de 17 ans seulement. par la suite, elle continue de s'imposer jusqu'à dominer le tennis féminin. Son palmarès, c'est impressionnant. Elle a 39 titres du Grand Chelem, dont 23 en simple, 14 en double avec sa sœur Vénus et 2 en double mixte. Donc on peut le dire, c'est vraiment une boss. Elle a vraiment tout, tout explosé.
Il n'y a rien à dire.
Trop forte. Ouais. Et parallèlement à sa carrière sportive, Serena a fait plein de choses, très engagée. Mm-hmm. Donc elle s'est engagée pour défendre les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des personnes noires. Elle devient une voix puissante pour les opprimés. Elle plaide pour l'égalité des chances et salariale dans le sport. Elle s'engage dans une campagne contre les violences économiques faites aux femmes. Elle fonde la Serena Williams Foundation, qui vise à promouvoir l'éducation et l'autonomisation des jeunes défavorisés dans le monde. Elle écrit aussi une lettre ouverte dans Porter Magazine, dans laquelle elle s'adresse à toutes les femmes incroyables qui visent l'excellence et les invite à poursuivre leurs rêves avec une résilience inébranlable et à continuer à viser les étoiles. Elle raconte aussi dans cette lettre que, petite, son rêve n'était pas de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde, mais bien... J'ai dit n'importe quoi. Enfin, faut que je le lise. Son rêve était de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde.
J'étais surprise. Je me dis que c'était pas dans son personnage quand même.
Je me suis dit, elle va sortir quelque chose de mieux encore, mais oui, qu'est-ce que tu peux être mieux que ça ?
Ok, son rêve était de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde, mais pas la meilleure joueuse femme de tennis au monde.
Ah, ok, voilà. La nuance est là.
Voilà. Serena Williams a pris sa retraite sportive en 2022. Au cours d'une de ses dernières interviews, elle a dit. Notamment, j'aimerais penser que grâce à ce que j'ai pu faire, les athlètes femmes peuvent être elles-mêmes sur le court, qu'elles peuvent jouer avec agressivité en montrant les points, qu'elles peuvent être fortes et magnifiques à la fois, qu'elles peuvent porter ce qu'elles veulent, dire ce qu'elles veulent, botter des fesses et être fières de tout cela. Et elle conclut, j'aimerais penser que je suis passée par des étapes difficiles en tant que joueuse de tennis professionnelle afin que cela soit plus facile pour les générations futures. Voilà.
C'est beau. Merci Serena.
Ouais, donc pour résumer, Serena Williams, c'est 27 ans de carrière, 39 titres du Grand Chelem, 4 médailles d'or olympiques, 319 semaines comme numéro 1 mondiale, 94,5 millions de dollars de prix remportés. Serena Williams, c'est la puissance d'une femme noire qui, malgré les discriminations, s'est hissée au sommet tout en aidant les autres à la rejoindre. Et son héritage dépasse largement le tennis. Elle est une légende inspirante, un symbole de résilience, de courage et de lutte féministe et antiraciste pour un monde plus juste. Voilà.
Merci pour cette présentation.
Merci, quelle femme.
Oui.
Et j'avais vu sur les réseaux, alors je me souviens plus du pourcentage, et je sais même pas si c'est un pourcentage hyper fiable, donc ça vaut peut-être mieux que je le connaisse pas, mais qu'il y avait quand même une bonne partie de, d'hommes américains qui pensaient pouvoir battre Serena Williams s'ils étaient en match.
Oh là là.
Mais quand tu regardes la liste des titres, tu dis quand même, il faut avoir confiance en soi, hein, franchement.
Narcissisme masculin. Toute sa
splendeur. Une petite pensée pour les personnes vivant dans la désillusion.
Dans le déni.
Mais bon, des grandes sportives, mais malheureusement, ça reste un peu l'exception quand même.
C'est ça, c'est ça. Donc là, j'ai présenté Serena, qui est une femme qui, malgré beaucoup de discrimination du fait qu'elle soit une femme noire, a réussi à vraiment être aujourd'hui grandement valorisée, admirée par le monde entier. Mais c'est vrai que ce genre d'histoire reste extrêmement rare, exceptionnel, et que faut pas se dire oui bah si elle a réussi bah tout le monde pourrait réussir, il faut juste un peu de travail et vous voyez elle veut y arriver, enfin voilà, non c'est pas si simple, les femmes et encore plus les femmes noires que les femmes blanches, enfin voilà, spécificités de discrimination,
ouais,
font que c'est extrêmement difficile de réussir en fait à ce point professionnellement, notamment dans le sport. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, en fait, du racisme, du sexisme, qui nous empêchent de nous déployer autant qu'on voudrait dans un sport, autant qu'on voudrait, et autant que les hommes blancs, notamment. Donc voilà, c'est normal que tout le monde n'arrive pas à ce stade. Ça reste extrêmement rare.
C'est sûr qu'on connaît beaucoup de sportifs masculins. C'est quasiment des célébrités qu'on passe à. Tu parlais de Giroud, Mbappé, ouais. Tout ça. Mm-hmm. Alors que des sportifs femmes, à part si. Serena Williams, je pense que c'est une des plus connues, mais.
Ça. Et je voulais juste rajouter que même si elles sont connues et super valorisées et tout et montrées, elles gagnent pas forcément toujours autant que les hommes, même très souvent beaucoup moins. Voilà.
Exactement. Et même médiatiquement, elles sont valorisées, mais pas autant que les hommes non plus.
Oui, bien sûr, oui.
Elles sont souvent dévalorisées également dès qu'on le peut.
Beaucoup de critiques, oui.
En effet. Et aussi quelque chose qui m'avait marqué par rapport aux sportifs masculins. Qui sont beaucoup plus connus. Une fois, on m'avait demandé de citer 5 footballeurs masculins et ensuite 5 footballeuses. Ensuite, on m'avait demandé 5 boxeurs, 5 boxeuses, 5 basketteurs, 5 basketteuses. Bah, et du coup, en fait, les hommes, je pouvais toujours les citer et les femmes, j'en étais souvent incapable.
Alors qu'en plus, vous êtes quand même des femmes sportives et qui faites du foot, donc vous y connaissez quand même un peu plus peut-être que... Que moi, par exemple.
Oui, c'est ça.
Mais oui, mais voilà, c'est assez flagrant, en fait, la différence aussi de médiatisation.
Ce qui me choque dans ça, justement, c'est que même certaines footballeuses peuvent ne même pas connaître les footballeuses professionnelles, par exemple. Ne regardent que les matchs masculins.
C'est vrai.
Voilà. Ah, c'est fou, ça. Mais ça me rappelle... récemment à l'UTC, on a eu un amphi dans le mois de l'égalité d'une scientifique qui était aussi journaliste et dessinatrice qui faisait des BD sur les scientifiques oubliés, notamment des femmes scientifiques oubliées. Et elle disait que même dans les milieux hyper scientifiques, même dans les milieux qui étaient dédiés à l'histoire des scientifiques et tout, il y avait énormément de femmes scientifiques qui avaient fait des découvertes révolutionnaires qui n'étaient pas connues, qui ne connaissaient pas même par les experts. Quoi. Ouais. Donc quand tu sais que même dans le milieu, c'est pas connu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Quoi.
Oui, c'est sûr.
C'est
peut-être aussi une question de médiatisation, en fait. Si elles ne sont pas médiatisées, on n'en entend pas parler et on ne s'y intéresse pas, en fait.
Oui, et de moyens, non. Tu m'avais parlé des professionnels des professionnels en foot et les professionnels femmes, c'était vraiment difficile d'avoir ce statut-là, c'est ça, non ?
Oui, il n'y a pas beaucoup de joueuses professionnelles déjà. Et celles qui le sont, elles ne gagnent pas beaucoup. Et beaucoup d'entre elles sont semi-pro, c'est-à-dire qu'elles gagnent de l'argent, mais pas assez pour vivre. Du coup, elles doivent avoir un emploi à mi-temps, ce qui est déjà bien, puisque par rapport à d'autres, elles n'ont pas besoin d'avoir un emploi à plein temps.
Ouais.
Du coup, forcément, si tu as un métier à côté... Tu ne peux pas te concentrer pleinement sur le foot et progresser autant qu'un mec qui gagne des millions par mois et qui se concentre à 100% sur le foot.
Ouais, et ça depuis qu'ils sont tout petits. Parce que souvent les professionnels, on les repère à un jeune âge. Quoi, donc,
c'est ça. Alors que forcément, les petites filles ne construisent pas du tout la carrière de la même manière que les hommes en sachant qu'elles ne vont pas forcément gagner beaucoup et qu'elles doivent se concentrer sur leur vie à côté pour pouvoir gagner de l'argent et vivre normalement.
C'est fou.
Exactement. Pour donner un petit chiffre, c'était 2/3 des joueuses qui ont participé à la Coupe du Monde à la FIFA en 2023 ont posé des jours dans leur métier, dans leur travail.
Ah ouais, je suis choquée.
C'est énorme. Et aussi, il y a ce truc où on compare tout le temps, en fait, les performances des femmes à celles des hommes. Et on explique en fait la différence de niveau entre ces deux catégories seulement par la biologie. En mode, vous voyez, les hommes ont un avantage physique, c'est comme ça, c'est la nature. Mais en fait, il y a une différence biologique, évidemment, mais c'est pas cette différence biologique qui explique une telle différence
écart,
de niveau.
Ouais.
Et en fait, il y a tous les facteurs sociaux, politiques, de temps, économiques, exactement, qui font que les femmes n'ont pas autant de moyens et de ressources pour se déployer dans un sport autant que les hommes. Et voilà. Et de plus en plus, on leur permet d'avoir des ressources, mais c'est quand même encore loin, très loin de ce qu'on offre aux hommes. Voilà.
Bah, Sur ce, ça me fait penser à ça, où tu parles de FIFA 2023. On va s'écouter, pour se reposer un peu de notre débat enflammé, la chanson officielle de la Coupe du Monde FIFA 2023, féminine.
Oui.
Ça s'appelle Do It Again, et c'est de Benny, je crois, le nom, B-E-N-E-E, si vous voulez chercher. C'était Do It Again de Benny sur Graphite 94.9. Et vous écoutez l'émission de Stop VSS. Aujourd'hui, nous parlons des femmes et du sexisme dans le sport. Nous parlions de professionnels du foot, de joueuses professionnelles et tout. Mais vous, Alice, Juliette, vous êtes des joueuses de foot. Peut-être pas professionnelles, mais peut-être bientôt, non. Qui sait.
On est loin quand même. On est loin.
C'est quoi votre ressenti d'être dans ce sport masculin en général?
Pour ma part, déjà j'adore le foot, donc c'est un plaisir. Mais sinon, en tant que femme dans ce sport, quand j'étais petite, je ne m'étais pas forcément rendu compte en commençant le foot que c'était un sport très masculin. Je m'en suis rendu compte un peu après. À 7-8 ans, je ne me rendais pas du tout compte. Et c'était presque même un peu valorisé à ce moment-là. C'est cool, tu fais du foot. C'est un sport quand même assez valorisé. Et sinon, j'avais envie de parler d'un autre truc, c'est que on est souvent quand même comparé à des hommes ou des garçons en tant que femme dans le foot.
Mm-hmm.
Par exemple, tu joues comme un mec, t'es aussi forte qu'eux et tout. Et c'est des trucs que j'ai souvent entendus quand j'étais petite et adolescente,
ouais.
Que je peux entendre encore maintenant. Mais maintenant, je le vois plus tout pareil. Avant, j'étais contente d'avoir ces commentaires. Et maintenant, je me dis, il y a un petit problème là-dedans quand même.
Ouais.
J'ai pas besoin d'être comparée à un mec pour qu'on me fasse des compliments sur mon jeu.
Une bonne joueuse, quoi.
On est souvent comparé à des hommes dans le foot.
Oui, c'est ça. Et, Et pardon. oui, bah la même chose que Juliette. J'ai commencé, je jouais un peu à l'école avec mes amis, donc que des garçons. Et en fait, c'est à partir du collège où, quand je jouais avec des garçons, dès que je faisais quoi que ce soit en foot, je faisais un petit pont ou un but ou quelque chose, c'était tous en mode waouh, truc de fou et tout, c'est une fille, elle a réussi à faire ça et tout. Et du coup, au début, j'étais en mode sympa et tout, genre tu vois, on me saucer. Et en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait déjà. Parce que j'étais en mode, mais c'est too much. Enfin, genre, pourquoi vous réagissez de cette manière avec moi, enfin, différemment qu'avec si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait la même chose, un garçon notamment. Et voilà, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais un peu. On me valorisait du fait que je faisais du foot et que j'étais pas comme les autres filles, que j'étais pas une chouchotte et que machin. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que ça, c'est une valorisation encore où on compare les femmes entre elles et où on va dénigrer des caractéristiques féminines et on va valoriser des caractéristiques masculines, donc j'avais. Et en fait, c'est très problématique. Et c'est ça. Et voilà, donc aujourd'hui, j'apprécie plus trop ce genre de remarques, non, en
c'est
effet.
Clair. C'est clair.
Et puis, c'est drôle de voir les différences un peu de culture en fonction de où on est, parce qu'aux États-Unis, il me semble, le foot, soccer, comme ils disent là-bas, c'est un sport assez féminin, c'est ouais, il y a beaucoup, bah c'est comme tu disais dans ta présentation de Marinette, pour ceux qui l'ont entendu, que la scène américaine du foot féminin est énorme. Et donc ça monte un peu à penser qu'est-ce qu'on considère comme des sports féminins, qu'est-ce qu'on considère comme des sports masculins. C'est assez variant, mais il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même des sortes de points communs entre les choses, genre. On a la danse, l'équitation.
Ouais, c'est ça. Du coup, je vais sortir une petite étude qui a été faite par Vanessa Lantillon. C'est une sociologue en sciences du sport qui mettait en lumière en fait des stéréotypes de genre qui faisaient que certains sports étaient considérés comme masculins, certains sports étaient considérés comme féminins dans la société. Et les sports masculins, ils ont des caractéristiques en commun. Donc, c'est souvent des sports d'endurance, de force, de vitesse, stratégie. Ouais. Et il y a beaucoup d'opposition en face à face, beaucoup de compétition, etc. Et de l'autre côté, il y a des sports qu'on dit plutôt féminins, qui prônent plutôt la grâce, la précision, l'agilité, la souplesse, où il n'y a pas beaucoup de contact entre les joueuses. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans la société. On le voit au quotidien, en fait. On s'en rend compte un peu que, voilà, il y a cette... c'est deux côtés un peu du sport. Le souci dans tout ça, c'est que les sports féminins sont en général beaucoup plus dévalorisés dans la société, beaucoup moins vus comme des sports. Par exemple, la danse, l'équitation, tout ça, c'est toujours des choses où on remet en question un peu le côté sportif de l'activité, alors que bah, c'est autant un sport que du foot, du basket, du rugby, des choses comme ça.
C'est ça. Ben, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des influenceurs et influencées sur YouTube qui participent à l'émission Danse avec les stars. Et du coup, ils postent des vlogs de leurs entraînements sur les réseaux. Et en fait, j'ai remarqué que plusieurs d'entre eux et elles sont étonnés la première semaine d'entraînement d'être aussi fatigués, en fait, de danser toute la journée. Genre, ils ne s'attendaient pas à être aussi fatigués fait de danser toute la journée.
Alors que c'est hyper physique. Enfin, oui, si tu as déjà fait une ou deux séances de danse, tu dis tu fais ça toute la journée.
Mais dans l'imaginaire collectif, en fait, ce n'est pas vraiment un sport. Enfin, en tout cas, moins que du foot ou du rugby ou du sport masculin. Et du coup, voilà, bah, je trouvais ça marrant. Quand je l'ai remarqué, je me suis dit, bah oui.
Moi, je trouve que c'est aussi amusant de voir dans ces sports féminins où... Bah, du coup, souvent, il y a moins d'hommes et tout ça. Je pense la danse, évidemment. La gymnastique aussi, un peu. Ouais. Mais il y a aussi une sorte de dissociation entre la pratique de gymnastique des femmes, la pratique des gymnastiques des hommes. Ils ne font pas les mêmes choses, qui ne demandent pas les mêmes muscles et tout ça. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des aspects masculins dans un sport féminin, c'est très genre... comme tu disais, ça va être beaucoup sur la puissance, sur le muscle et tout, et moins sur la grâce qu'on peut avoir, genre, qu'on voit des gymnastes ou des danseuses.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
En vrai, on retrouve toujours ces pratiques genrées dans le sport, même au sein même d'un même sport.
Ouais, et peut-être pour revenir sur la contradiction du foot féminin qui s'est très bien développé aux États-Unis, j'ai pas de réponse exacte à pourquoi ça a fonctionné là-bas et pas ici.
Ouais. En fait,
et je pense.
Enfin, j'ai pas de réponse. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire,
vas-y.
Mais c'est que le foot là-bas, le football, du coup, c'est vu que, enfin, c'est le football américain, quoi, le sport avec beaucoup de contacts, beaucoup de trucs physiques et tout, et ça, c'est vu comme plutôt masculin.
C'est ça.
C'est ce que t'allais dire.
Oui, c'est
ça. Ok, désolée.
Et en plus, le football américain, du coup, n'est que masculin.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, ils ont une version du foot de genre Super Bowl féminin, mais c'est genre hyper. Enfin, je pense que ça n'existe plus maintenant. Enfin, j'espère, parce que c'était vraiment genre ils mettaient des filles dans des tenues hyper sexy et ils les foutaient sur le terrain. Enfin bref, c'était. J'ai entendu parler une fois et j'étais genre ah ok.
Non merci.
Je pense plus que c'est. Je pense pas que c'est d'actualité et c'était pas très très connu heureusement. Mais oui.
Et c'est ça. Mais aussi, il y a ce truc où... C'est ça, en fait. Le fait de faire du foot ou un sport masculin, c'est valorisé jusqu'au moment où on rivalise, en fait, je pense, vraiment, avec les hommes. Et là, ça touche leur ego. Et ça, ils n'aiment pas. Et je pense que c'est pour ça que les sports qui sont très, très masculins, enfin, considérés comme très, très masculins, eh ben, c'est très difficile pour les femmes de se faire entendre et voir et voilà, se développer. Je pense que c'est particulièrement... difficile.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est la grande peur quand je vois sur les réseaux le discours autour du sport féminin. C'est toujours à remettre en question en fait le talent et la force et le mérite en fait des sportifs. Enfin, je voyais quand je faisais mes recherches pour trouver des petits audios bien sexistes de ma rubrique historique. De Lina, etc. J'étais tombée sur une vidéo d'un commentateur sportif français en 1955, donc ça datait d'un match de foot féminin aux Pays-Bas, puisque c'était interdit en France, comme on l'a pu le dire avant. Évidemment, c'était que des blagues hyper sexistes pour se moquer, style la gardienne, elle veut pas sauter, elle a peur de se ébouiffer les cheveux. C'était les ballerines du foot, enfin bref, des trucs comme ça. Et le niveau de jeu était pas fou, parce qu'on était en 1950, que de toute façon, même le foot masculin n'était pas forcément aussi au même niveau que maintenant, et tous les commentaires c'était le foot féminin n'a pas évolué, toujours le même niveau, oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle le commentateur, maintenant on peut vraiment plus rien dire.
Je l'ai dit. Oh mon dieu. Ah waouh.
Et justement par rapport à ça, on parlait donc tout à l'heure de l'interdiction du foot féminin sous le régime de Vichy, et j'ai regardé la date et effectivement c'est seulement en 70 que le foot féminin est redevenu légal, entre guillemets, et reconnu. C'est-à-dire que là, on parle de 1950, c'était même pas considéré comme un sport. Enfin, c'était juste des gens qui jouaient entre eux comme une activité, quoi. Ils avaient même pas d'institution au-dessus d'elles.
Ouais.
J'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils se sont permis de se moquer comme ça.
Oui, et puis à l'époque, vraiment, enfin même jusque dans les années 80... Enfin, quand tu regardes les reportages INA, ce que les gens disent, c'est vraiment très les femmes qui font du sport, c'est moche. Enfin, genre il y a des sports masculins, des sports, c'est comme c'est les sports masculins, il y a des sports féminins, et les sports féminins, c'est quand les femmes elles sont belles et que c'est élégant et tout. Et puis le reste, faut pas. Il y a un côté indécent comme ça.
Ouais, c'est ça, genre ça choque.
Ça choque alors que bon. Une femme, ça sait courir, quoi.
Oui. Mais peut-être que ce genre de remarques, on l'entend un petit peu moins aujourd'hui, à l'écran en tout cas, dans les médias. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qui reste dans l'inconscient collectif. Et certaines personnes le pensent encore, vraiment très profondément.
Ils le disent.
Ils le disent aussi, c'est vrai. Ils peuvent nous le dire, même des fois de face. Donc c'est assez violent, ce genre de remarques. Et toute l'idéologie derrière ça, c'est vraiment terrible.
Ouais. Et c'est vrai, enfin, on en parle au passé, mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui arrive. Enfin, quand tu vois comment les gens voient aussi. Mais en fait, il y a un truc même physique. On n'a pas envie que. Enfin, je ne m'intègre pas dans, cette, les dans ce propos. Mais ouais, la société n'a pas envie de voir des ressemblances physiques un peu entre l'homme et la femme. Exactement. Et souvent, ouais. Quand les femmes sont de plus en plus sportives, pratiquent énormément le sport, bah, du coup, évidemment, il y a plus de muscles qui se développent, des épaules plus développées. Et il y a des ressemblances, entre guillemets, qui se font. Et dès que ça arrive dans cette catégorie-là, comme on voit avec Serena Williams, elle était, il me semble, énormément comparée à un homme. Oui. Parce qu'elle est hyper musclée et hyper... Enfin, voilà, et on dit toujours que c'est pas féminin, etc.
Alors que c'est de la force, et la force, c'est hyper valorisé chez les hommes.
C'est ça. Mais en fait, les genres et la façon dont on exprime notre genre, donc soit, on va être dans la bicatégorie, soit femme cis, soit femme, soit homme. En fait, ces deux catégories sont construites vraiment en opposition. Et ce qui est valorisé chez l'un sera dévalorisé chez l'autre et inversement. Bon, même s'il y a un côté où tout est plus valorisé que l'autre. Mais et en fait, voilà, c'est ça, le fait que des femmes, du coup, développent une musculature ressemblant, se rapprochant de celle qu'on valorise chez les hommes, et bah, ça en perturbe beaucoup. Et à l'inverse. Bon, un peu moins, mais quand même un homme peu musclé ou fin ou quoi, on va le dévaloriser aussi. Mais les injonctions sur les corps des femmes sont quand même plus présentes. Plus importantes.
C'est ce que j'allais dire, justement, il y a aussi tout ce contrôle de la part de toute la société sur le corps des femmes. En règle générale, pas forcément que dans le sport, mais là, du coup, dans le sport, c'est vraiment... ça se voit, quoi.
Et même dans les habits, par exemple, j'avais entendu parler des gros débats, c'était dans le beach volley, non ?
Oui.
Où il y a des équipes qui se sont fait éliminer parce qu'elles n'étaient pas dans la tenue obligatoire qui était un bikini, je crois.
Ouais, ce que j'avais vu, c'était que c'était l'équipe de handball de plage, donc l'équipe féminine qui avait voulu mettre des shorts. À une compétition, sachant que d'habitude elles doivent porter un bikini, ce qui est pas du tout pratique pour faire du handball de plage. Donc elles avaient voulu porter des shorts et elles ont eu des amendes. Elles pouvaient pas jouer, elles ont reçu des amendes.
Oh là là.
Et finalement, il y a eu toute une polémique autour de ça. D'ailleurs, c'était en 2021, c'était pas en 1970, c'est en 2021. Il y a eu toute une polémique et du coup, la fédération de handball de plage a décidé finalement de leur autoriser les shorts. Mais par contre, c'est écrit dans leur loi, il faut que ce soit des shorts courts et serrés. Voilà, donc mais toujours contrôle de leur corps et de comment ils doivent être...
Autant dire que les super-héroïnes dans des tenues sexy, c'est pas que dans les films, c'est aussi dans le beach handball.
C'est ça.
Ça. Alors que, voilà, à l'opposition, les hommes du handball de plage, ils peuvent s'habiller avec une tenue adaptée pour leur sport.
C'est ça. Et pareil, j'avais vu des footballeuses qui racontaient qu'on les incitait fortement à se maquiller pour les matchs.
Ce
qui n'a pas trop de sens quand tu fais du sport d'être maquillée.
Ah ouais, de fou.
Mais on les incite fortement.
Bah, ouais. Ça se trouve, Griezmann porte du fond de teint, mais j'avoue que
je pense pas. En tout cas, pas de mascara. Et... Ouais. Pas de rouge à lèvres. Je l'ai pas remarqué
non plus. Mais c'est vrai que toutes ces injonctions, ça donne pas trop, ça incite pas trop les femmes à pratiquer le sport. Surtout à partir d'un certain âge. J'ai l'impression que souvent quand on est jeune, il y a toujours, un peu moins que les hommes quand même souvent, mais il y a quand même cette incitation à être actif. Une jeune fille qui court partout, c'est une jeune fille avec beaucoup d'énergie et tout. Mais à partir de l'adolescence, on a envie que les femmes commencent à ressembler à des femmes, quoi, aussi. Il y a ce truc-là.
C'est leur place. Ouais, c'est ça, à l'adolescence, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent le sport, notamment en compétition. Et du coup, forcément, alors que c'est un âge super charnière dans le développement, si les femmes arrêtent le sport à l'adolescence, après, elles ne peuvent pas se développer, même juste musculairement, intellectuellement, faire leur place dans le sport. Et du coup, ça pose des problèmes à l'âge adulte. Des différences, en tout cas, entre les genres.
Ça fait un rapport au sport très différent. Enfin, moi, je me rends compte avec mon expérience personnelle. Je ne m'étais pas trop posé la question avant que Juliette, tu sortes le post, parce qu'il y a un post Instagram sur le sexisme dans le sport, d'ailleurs, sur stopvss-UTC.
Allez le voir.
Il est super intéressant. Il a été écrit par Juliette, ici présente. Que oui, beaucoup de femmes ont arrêté le sport à l'adolescence. Et c'est vrai que moi, j'étais assez sportive, assez active quand j'étais jeune. Je faisais plein de sports. Enfin, je faisais de la danse. J'allais dire évidemment, mais c'est parce que j'ai l'impression que beaucoup de filles que je connaisse faisaient de la danse quand elles étaient jeunes.
Moi aussi.
Et je faisais beaucoup de natation et j'en ai fait en compétition jusqu'au collège. Et ensuite, après, au lycée, j'ai un peu plus arrêté. J'en faisais un peu moins régulière. Etc. Et après, quand je suis arrivée à l'UTC, j'ai quasiment arrêté tous les sports. Et je me suis vraiment dit, bah, moi, je suis pas une personne sportive. Genre, catégoriquement, j'étais en mode, ah non, mais c'est parce que c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Mmh. Alors que pourtant, quand j'étais jeune, j'étais très active et j'adorais être sportive. Je suis quelqu'un de ses compétitrices aussi. Donc, genre, je pense que si on m'avait plus incité aujourd'hui, je serais peut-être en train de faire du foot avec vous.
Mais viens,
il y a trop de personnes apparemment, vous êtes beaucoup, mais...
On t'accepte quand même.
C'est gentil, merci.
Mais oui, mais j'ai l'impression que cette idée que c'est pas fait pour moi, ça se retrouve chez beaucoup de femmes. Et je pense que ça vient pas seulement d'elles, puisque ça se retrouve chez beaucoup trop de monde, pour que ce soit juste un truc individuel. Je pense que c'est beaucoup d'injonctions, en tout cas de la société, et du fait que... Bah, en tout cas, le sport à l'âge adulte pour les femmes, c'est pas trop valorisé, à part si c'est pour maigrir.
Oui.
Ouais.
C'est un autre sujet.
Non. Et c'est sûr que moi, j'ai vraiment du mal à dissocier la pratique sportive avec genre, la perte du poids et la santé.
Ouais.
C'est fou. Alors que bon, il y a plein de choses que j'adore faire en sport. Hein.
Et puis, du côté des mecs, souvent, quand on leur demande pourquoi vous faites du sport... Bah, je sais pas, il y a la compétition, les potes, la bonne ambiance, le fait de se surpasser et tout. Et chez les femmes adultes, c'est maigrir, le truc qui revient en premier. Mm. J'ai pas les chiffres exacts, mais vous avez l'idée.
Mm. C'est sûr, ces paroles pleines d'espoir pour le sport féminin, que je pense qu'il faut qu'on termine notre débat. Est-ce que vous aurez peut-être des petits conseils culturels, films, séries sur le sujet que vous voulez partager?
De mon côté, j'avais toujours le film Marinette, mm-hmm. Sur la biographie de Marinette Pichon, donc une footballeuse. J'ai aussi un livre qui est écrit par Melissa Plaza, une autre footballeuse, qui s'appelle Pas pour les filles, je crois. Et enfin, un documentaire sur Arte qui est incroyable, qui s'appelle Toutes musclées.
Toutes musclées, ok. Ouais.
Ok, moi j'ai beaucoup moins de références, mais j'ai découvert il y a quelques mois une nouvelle chaîne sur la Freebox, qui est la 62, qui s'appelle W Sport, et qui diffuse exclusivement du sport féminin. Donc voilà, il faut aller regarder pour soutenir. C'est un petit acte de sororité. Mm-hmm. Et en plus, comme ça... Si vous n'en étiez pas convaincu, vous verrez que le sport féminin est aussi divertissant, palpitant et exaltant que le sport masculin. Mmh. Et voilà, il faut aller voir cette chaîne.
C'est gratuit,
c'est... Oui, c'est gratuit.
C'est gratuit, je crois qu'il y a...
Et c'est que sur la Freebox, malheureusement, ouais. Pour l'instant.
Et ben moi, j'ai quelques trucs aussi. Une série que j'aime beaucoup, qui est sur un sport, sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, pas très connu en France, League of Their Own, c'est sur une ligue de baseball féminine aux États-Unis. C'est une série un peu historique, enfin, ça se passe dans les années 40, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des ligues aux États-Unis féminines de baseball qui se sont développées parce que c'était la guerre, donc il n'y avait pas assez d'hommes pour faire des ligues de baseball masculines. Mm-hmm. Et les gens étaient un peu stressés, donc le gouvernement s'est dit allez, on va ouvrir ça, ça va faire du show, quoi. Et du coup, c'est un peu toutes ces femmes qui sont hyper passionnées de leur sport et comment elles se réunissent. Il y a énormément de représentations dans la série LGBT notamment, et c'est super fun et vraiment cool. C'est sur Prime Video, je crois. Il y a aussi un film sur Netflix que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Naiad. Qui parle de Diana Nayad, qui est une nageuse qui a fait un truc de fou. Elle a traversé l'océan. Elle allait de Cuba à la Floride, à la nage. Ça fait presque 50 heures de nage. d'affilée. Non, et c'est son histoire, comment elle a fait ça. Elle a fait ça, en plus, quand elle était assez âgée, elle a fait ça à 60 ans, je crois.
Wow.
Ouais. Et c'est la seule humaine à avoir fait ça, en fait. Les gens ne savaient pas que c'était physiquement possible. Genre, enfin bref. C'est un truc de fou, c'est très intéressant comme histoire. C'est une personne très intense. Je ne sais pas si... Ouais. Je ne pense pas que ça doit être agréable. Apparemment, elle réveille ses voisins à genre 6h du mat' à la trompette parce qu'elle pense que tout le monde devrait être hyper actif et se réveiller tôt. Je ne pense pas que je voudrais être la voisine de Nayad, mais... Elle a fait des trucs incroyables, donc... Et donc, c'est sur ces mots-là que nous allons finir cette première émission de Stop VSS sur Graphite. Merci de nous avoir écoutés, pour les auditeurs qui sont ici. Et pour des petites références, la chanson de générique est faite par Charlotte Soise et s'appelle « Fait comme Lilith ». Je suis Lorraine et je suis accompagnée donc avec Alice et Juliette pour Stop VSS.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.